Alors, je pense que de rencontrer les autres, ça m'a permis d'apprendre à me rencontrer moi, à comprendre qu'est-ce que j'avais de particulier, mais aussi qu'est-ce que j'avais de commun avec d'autres conteurs-conteuses. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de conte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Dans ce 19e épisode, je vais vous parler de mon rapport aux autres conteurs-conteuses. Pendant plusieurs années, j'ai compté tout seul dans mon coin et j'y tenais, j'avais envie d'apprendre à me connaître, d'apprendre de découvrir ce territoire-là par moi-même. Mais avec le temps, un moment donné est venu le moment où je me sentais disponible pour faire des rencontres, pour créer des liens, pour apprendre d'autres manières de faire. Et je crois que le premier contact que j'ai eu avec un autre conteur ou une autre conteuse, ça a été avec Fano, qui, je vous en ai parlé dans l'épisode 13, qui m'avait contacté pour dire « Ah, ben attends, on est deux conteurs en Gaspésie, c'est bête qu'on se connaisse pas, on se rencontre-tu? » Et Fano, à ce moment-là, vivait dans la même communauté qu'une autre conteuse, qui, elle, vient plus du milieu du théâtre. Et pour moi, ce duo-là, ça a été une relation hyper importante dans ma carrière de conteur parce que tout d'un coup, ça me faisait sortir d'une espèce de solitude. Ça me permettait de varier les points de vue, surtout avec Marianne Dubé, son nom. Elle, bon, en venant du milieu du théâtre, elle a une approche vraiment différente. Elle pratique son texte avant et puis on pouvait avoir des discussions vraiment riches, mais surtout, je pense que ça me faisait profiter du regard de quelqu'un d'autre. Ça me permettait un peu d'ouvrir mes horizons. Si, par exemple, avec Fano, on allait voir un show de Marianne, eh bien, ensemble, Fano puis moi, pendant le show, on pouvait discuter puis dire « Hey, ça, t'aimes-tu ça, toi? Ah non, moi, j'haïs cet effet-là. Ah, moi, j'adore ça. » Et avoir une discussion soutenue puis très éclairée, on est... Finalement, veux pas, t'es initié quand tu comptes, toi aussi. T'as un peu le bon vocabulaire pour aborder le sujet et puis... isoler certaines composantes, voir qu'est-ce que t'aimes, faire abstraction de ce que t'aimes pas, puis dire « Ah, la force vraiment de ce spectacle-là, c'est ce point précis. » Tu sais, une balise dans la vie, comme un phare sur la mer, c'est pas quelque chose... Le but, quand tu vois une lumière d'un phare, c'est pas d'aller taper dedans. Non, le phare, en ayant une position claire, précise, fixe, te permet de comprendre toi, t'es où dans l'espace. Et puis si tu vois un autre phare là-bas et un autre phare là, eh bien, t'as une position beaucoup plus précise parce que la trigonométrie, là, je veux dire, les GPS fonctionnent de même. Donc, d'avoir des balises claires autour de toi te permet de mieux te situer. Et entre autres, c'est un peu le but de ce podcast-là. Veux pas? Je veux rejoindre le monde qui vient de me voir en show de compte, mais aussi d'autres conteurs-conteuses. Je pense que c'est un beau cadeau à se faire entre nous de parler en long et en large de notre pratique parce que tout d'un coup, ça aide chacun, chacune à se positionner plus précisément puis à être plus engagé dans sa vision. Et moi, s'il y a un autre conteur ou une autre conteuse qui sortait un podcast de 20 épisodes, ça serait un beau cadeau pour moi parce que tout d'un coup, ça ferait écho et il viendrait par sa pratique, même si elle est à des kilomètres de la mienne, il m'aiderait à mieux comprendre le détail dans la mienne. Et c'est ce que je retrouvais un peu dans ces discussions-là avec ce conteur-là puis cette conteuse-là. Et réaliser que toi aussi, t'aimes ça dans ta propre pratique. Alors, je pense que de rencontrer les autres, ça m'a permis d'apprendre à me rencontrer moi, à comprendre qu'est-ce que j'avais de particulier, mais aussi qu'est-ce que j'avais de commun avec d'autres conteurs-conteuses. Comme avec Fano, notre rapport à l'impro était assez similaire et on pouvait échanger un peu sur comment on se servait de cet outil-là, d'aller voir l'autre quand il le fait, tu réalises que « Ah, oui, ça, c'était de l'impro, mais j'ai pas aimé comment tu le fais. » Puis « Ah ouais, toi aussi, tu fais exactement la même chose. » « Ah ouais? » Et ça donnait vraiment un miroir très riche pour moi. Puis par la suite, et ça a été une amitié, moi, ce duo-là, ça a été une amitié pour moi d'abord et avant tout. Je pense que c'était ça le lien qu'on... Oui, on s'est connus à cause du conte, mais rapidement, on a développé des liens affectifs. Et je pense que comme dans bien des contextes de travail, ce qui te donne envie de travailler avec ton collègue, c'est d'abord le lien affectif que tu peux avoir avec. C'est ce qui fait qu'on a des affinités avec certains collègues, puis pas avec d'autres. Et ensuite, ça sera une relation professionnelle, mais qui sera ancrée, je pense, dans un émotif d'abord. Et alors, tu sais, c'est encore du monde que j'ai dans ma vie. Et il y a de quoi d'hyper intéressant là-dedans pour moi. Fano, il a changé énormément sa manière de compter dans le temps. Ça s'est raffiné. En fait, à un moment donné, sa technique se raffine. Il devient de plus en plus lui-même. Il trouve un peu sa trail à lui et il l'honore de mieux en mieux. Tout d'un coup, tu es capable de dire, bon, ben oui, ça, c'est un de mes défauts, mais je deal très, très bien avec. J'arrête de travailler là-dessus et je me concentre sur cette force-là. C'est là que tu découvres un peu ta couleur. Et moi, c'est un peu un plaisir de voir grandir ce compteur-là à mes côtés. Et Fano m'a même fait le cadeau à un moment donné de me demander d'y offrir du mentorat. Pas qu'on a pas qu'on a une hiérarchie dans nos niveaux, non, mais d'avoir un temps vraiment dirigé puis orienté où est-ce que on aura juste à parler de sa pratique. Ben moi, c'est un honneur, tu sais, d'avoir cette confiance-là, qu'il me fasse ce cadeau-là de confiance. Et pour lui, c'est riche de profiter du regard extérieur de quelqu'un à qui tu fais confiance, qui vient te donner une rétroaction sur ce que tu es en train de présenter, qui a une compréhension de pourquoi tu le fais, de comment tu le fais. Ah, tiens, Fano, bon, hier, j'ai vu ce show-là de toi et bon, il y avait ça qui était faible, mais je pense que c'était le contexte parce que d'habitude, t'es fort là-dedans, fait qu'on passe par-dessus. Mais ça, ici, je trouve que ça accroche ce moment-là dans ton compte. Ah oui, oui, oui. Moi, ouais, je pense que tu pourrais plus faire du Fano à ce moment-là. Tu sais, le moment où t'es comme... c'est très flou tout ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous allez retirer quelque chose de ça. Passez le temps. Hein. Le divertissement aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Fait que j'espère que c'est divertissant d'être écarté que moi. Alors, ça peut aller jusque-là. Ce genre de relation où est-ce que finalement, des fois, c'est beaucoup plus structuré, plus professionnel. Et il y a même un budget tout d'un coup qui te permet de déculpabiliser, d'être en train de demander à l'autre de parler de toi pendant 4 heures, tu sais. Comme c'est important de payer ton psy dans la vie. Ouais, le psy, c'était peut-être de trop. Et sinon, j'ai un autre lien qui a été important, ça a été celui avec Samuel Allot, qui est breton. Lui venait nourrir mon rapport au voyage de compte et à cette manière-là de propager le compte en allant chez l'habitant. Et ça m'a donné confiance en cette technique-là, en quelque chose que j'abordais doucement, fragilement. Et tout d'un coup, de voir l'autre qui y va, mais à pleine pelletée, à faire des tours du monde, à passer 2 ans à compter chez du monde sans être passé chez vous, ça te donne envie de partir un peu plus loin et un peu plus longtemps de chez vous faire un peu la même chose. Ou à l'inverse de réaliser que, par exemple, Sam, lui, ben pour moi, à un moment donné, c'est devenu clair que je le ferais jamais autant que lui, que ça, c'était trop extrême pour moi. Et je découvrais une de mes limites. Ah, moi, ma marge est là, et ça, ça me suffit. Ça, c'est le plus loin que je peux aller, et j'ai pas envie d'aller aussi loin que ça. Donc, il me permet de découvrir mes propres limites au lieu d'avoir à les dépasser moi-même et avec l'expérience réaliser que j'ai été trop loin. Non, en regardant Sam, j'ai profité un peu de son expérience. Et ça me permet de la rapporter sur moi et de cerner carrément c'est quoi ma position à moi dans tout ça. Et veux pas, Sam aussi, c'est quelqu'un qui me ramène souvent des comptes. À chacune de nos rencontres, il sait à peu près qu'est-ce qu'il m'a déjà dit. Et puis lui, son répertoire tourne énormément. Et lui, il abandonne des histoires en chemin, des histoires qu'il m'a contées il y a 4 ans, il ne les compte plus du tout parce qu'il y a des nouvelles histoires. Fait que c'est une espèce de source intarissable pour moi à laquelle ben, je vais chercher des nouveaux comptes à chacun de mes voyages. Même des fois par téléphone, on prend un peu des nouvelles et puis « Ah, j'ai une nouvelle histoire pour toi, mec, tu repasses, tu viendras chercher ça. » Et ça, moi, c'est une relation qui me plaît beaucoup. T'sais, on a une espèce de relation de répertoire. C'est quand même trippant, moi, d'avoir ça dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie d'amitié. C'est un lien que je développe avec quelqu'un à l'étranger. Et on a cette complicité-là de pratique qu'on retrouve avec peu de monde aussi. Du monde qui dorme chez l'habitant en échange de ses histoires. Il n'y en a pas des tonnes. Et c'est rassurant d'avoir quelqu'un avec qui échanger, de savoir qui te comprend, puis de dire « Ah, ça, j'ai trouvé ça difficile » et de l'entendre te répondre « Ouais, je suis d'accord avec toi. » Ça, c'est une réelle consolation. C'est un vrai réconfort. Et d'avoir Sam, de faire sa rencontre, ça m'a permis de faire la rencontre d'une technique de collecte. En fait, comment on s'échange des histoires entre compteurs-compteuses? C'est pas quelque chose que j'avais fait avant de rencontrer Sam. Et de fil en aiguille, Avec lui, j'ai compris un peu comment on peut mener cette barque-là. Et j'ai raffiné ma technique avec d'autres conteurs-conteuses. OK, on s'installe dans un café, on jase un peu de tout et tout d'un coup, eh bien, veux-tu entendre une histoire? Ouais. Et là, tu racontes tout bas, du bout des lèvres. Et la personne, elle accueille ça. Et là, c'est à son tour de t'en raconter une. Et puis, tu dis, ah, celle-là, est-ce que je pourrais te la prendre? Ah, ben oui, ça va me faire plaisir. Donc, de découvrir un peu comment ça peut marcher, ça. Je ne dis pas que c'est le même, que ça marche pour tout le monde. Il y a du monde, ça doit quasiment marcher avec un contrat. Puis oui, je viens collecter cette histoire-là. OK, combien tu me la vends? Il y a une conteuse qui m'a dit qu'elle a des droits à payer à chaque fois qu'elle raconte une histoire qui lui vient d'une autre personne. Il y a 1000 modèles possibles. Mais moi, ça m'a fait découvrir ça. D'aller prendre une bière, d'aller prendre un café. Et puis, on se dit des histoires. Et c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit ou pas. Et c'est toujours un peu bizarre quand même parce que, mettons que dans le temps de deux cafés, mettons que je vais penser à un cas en particulier, là, en Bretagne, j'avais rencontré une conteuse qui débutait sa pratique, mettons, publique, mais qui avait un gros répertoire, avait vraiment plein de contes. Elle m'en a raconté tout plein le temps de deux cafés. Et il y a juste, mettons, trois contes que j'ai comme fait, ah, ça, faut que je note. Fait que là, j'allais noter dans mon petit cahier, je notais le titre de l'histoire pour pas oublier qu'elle me l'avait dit. Et ça me suffisait à comme protéger cette histoire-là. Mais mettons, sur 20 histoires qu'elle te donne, il y en a 3 où tu signifies « merci, ça, c'était intéressant ». C'est quand même gênant de dire que finalement, les 17 autres, je n'avais rien à battre, tu sais. Mais c'est comme ben, « merci, là, tu m'as trouvé. Ah, là, tu ne m'as pas trouvé. » Mais fait qu'il y a ça. Et par après, c'est drôle parce que souvent, des rencontres que je fais comme ça, la personne va me réécrire genre 2 mois plus tard Hey Patrick, bon, on s'était rencontré dans tel contexte et tu m'avais raconté tel truc. Est-ce que je peux te prendre cette histoire-là? Finalement, je me rends compte qu'elle serait importante, mais il manque 2-3 éléments. Et là, j'offre toujours, ah ben oui, veux-tu qu'on se reparle au téléphone ou veux-tu que je te réfère vers la personne qui me l'avait raconté? Elle habite pas tellement loin de toi. Encore une fois, ça me l'a fait avec la Bretagne, une conteuse. On avait été dans un même cercle de conteurs-conteuses et j'avais raconté plein de trucs, puis elle m'était revenue sur un des contes que j'avais fait. Patrick, celle-là, est-ce que je peux te la prendre? Oui. Et j'y avais vraiment offert, ben, si tu veux, à 2 heures de chez vous, il y a la conteuse qui me l'a offerte, cette histoire-là. T'sais. Veux-tu aller la rencontrer? Veux-tu y faire le cadeau d'y dire que son histoire va continuer à vivre? Et elle m'a dit non. Non, j'ai envie de la tenir de toi. Et c'était ma méthode pour la transmettre qui l'avait touchée. Peut-être pas par ma technique, mais peut-être par le contexte. Ah, c'était un conteur québécois qui voyageait chez l'habitant qui m'a raconté cette histoire-là. C'est sûr que c'est plus romantique que de dire j'ai pris le métro pendant 4 heures. Il n'y a pas le métro, mais j'ai pris mon transport en commun, je suis abouti chez l'autre, on a pris un café, puis il m'a dit telle affaire, puis je suis reparti chez nous. Bien moins romantique. Ça serait comme si je vous disais la prochaine histoire, c'est une histoire qui m'est vraiment précieuse, je l'ai trouvée sur un channel YouTube. Non. C'est sûr que si elle vient d'un émissaire venu de loin, elle a une petite coche en plus. Déjà, il y a un narratif avant même que le narratif de cette histoire-là commence. Et il y a plein d'autres conteurs-conteuses à travers le Québec que j'ai rencontrés dans des festivals. Ça, pour moi, ça a vraiment été une fenêtre ouverte sur le monde du conte au Québec. Les festivals, pour moi, et ça m'a permis de développer des complicités avec certains individus. Tu sais, ça clique pas avec tout le monde dans la vie et tu trouves lesquels avec lesquels ça bande un peu plus et tu gardes un lien, ça devient un plaisir de les recroiser dans un autre festival. On se voit 2-3 fois par année des fois. Quoique je tends à faire de moins en moins de festivals. Mais ça me donne... C'est une espèce de famille du conte. Et c'est toujours vraiment agréable. Et des fois, il y en a avec qui je garde contact en dehors des festivals. Tu sais, par exemple, il y a un conteur belge que j'avais rencontré dans un festival qui, plus tard, m'a recontacté pour me dire « Patrick, je ferai une petite tournée au Québec. Est-ce que ça te dit... que je passe dans ton coin puis on pourrait organiser des petites soirées. » Lui, ça lui permettait de compléter son voyage puis d'avoir des scènes supplémentaires. Et moi, à ce moment-là, je me trouvais à avoir envie. Ce que j'avais à y partager, c'était ma communauté. C'était l'espèce de public que je pouvais avoir développé dans le coin. Fait que, ben oui, Pascal, on va faire 3 soirées dans le coin. Tiens, j'annonce ça. Et puis, il y a une soirée, il y a beaucoup de monde. Une autre soirée, une à moins. Puis, ce petit chapeau-là paiera un bout de ton billet d'avion. Je suis quand même content de pouvoir partager cet actif-là, finalement, qui est le genre de terreau que j'essaie de cultiver dans le coin. Veux pas, en présentant un spectacle depuis 12 ans, oui, je me génère un salaire, entre autres, j'arrive à gagner ma vie avec ça, donc il y a des fruits qui me reviennent, mais il y a aussi un terreau que je rends de plus en plus fertile. On est de plus en plus disponible à entendre des histoires parce qu'on a vécu des expériences avec un conteur. Alors, on va peut-être être plus enclin à en vivre avec d'autres conteurs. Il y en a avec qui j'ai des échanges constants sur Messenger. On s'écrit « Hey, t'as-tu vu tel événement de conte? » Oui, puis là, on a une rétroaction ensemble, on se téléphone. « Ah ouais, tu penses ça? » On parle beaucoup du milieu du conte au Québec ensemble. Et moi, ça me nourrit énormément d'avoir ce rapport-là avec du monde qui ont les pieds dedans, qui vont être à Montréal, qui vont être à Québec et qui me disent comment le conte se porte ailleurs. C'est une espèce de périscope pour moi qui me permet de m'inscrire dans quelque chose de provincial et non pas juste d'être dans ma petite bulle et de perdre un peu en sens. Non, tout d'un coup, je sais que ah ouais, c'est vraiment pertinent que je continue à faire du conte avec une grande sobriété, sans grand décor, parce que je vois que la tendance va à l'inverse et puis j'ai envie de dire que le conte, ça peut être autre chose. Et ça, ben, c'est grâce à des espèces d'informateurs à la grandeur du Québec. Et tout ce petit monde-là, ben, moi, j'ai envie d'y garder une espèce de porte ouverte à mon spectacle. C'était quelque chose qui était important pour moi à la petite grève. Autant moi, on m'a ouvert la porte ailleurs et je suis content de pouvoir spontanément aller conter dans des librairies, dans des lieux alternatifs. Eh bien, j'ai envie d'être un de ces lieux-là où est-ce que si t'apparais hier, eh bien, tu peux compter ce soir. Oui, dans ton voyage, on va te faire une place. Oui, le conte te permettra de voyager. J'en dois une à ce niveau-là, moi. Alors, j'essaie de garder la porte ouverte et il y a plein de... Il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine de conteurs, conteuses invités qui sont passés à date à la petite grève. De manière spontanée ou pas, des fois, c'est plus prévu. Veux pas, la Gaspésie, c'est une région touristique. Fait que l'année passée, par exemple, il y a Yoda Lefebvre, qui est un conteur qui vient de la vallée du Richelieu, qui se planifiait des vacances en Gaspésie. Ben, Pat, je peux-tu faire un stop chez vous puis en profiter pour aller compter une petite soirée? Si ça peut payer le gaz, c'est génial. Et j'ai envie d'être facilitant à ce niveau-là. Et c'est sûr que Yoda, il avait surtout envie d'expérimenter cette scène-là où est-ce que tu as du monde en vacances qui viennent voir du conte, qu'ils n'ont pas en tête le fait que demain matin, ils travaillent puis on a-tu préparé la bouffe pour les lunchs des enfants demain? Alors, j'essaie de garder cette porte ouverte-là, mais en même temps, c'est pas évident parce que je réalise de plus en plus que... Bon, il y a de plus en plus de monde au spectacle et ça fait que la foule est de plus en plus grande. Le nombre de mètres entre toi et le dernier spectateur est de plus en plus grand. Donc, ça prend une voix qui porte. Et ça, c'est pas un outil que tout le monde a. Et il n'est pas nécessaire au Québec pour compter. Tu n'as pas besoin d'avoir une voix qui porte parce que le trois quarts du temps, il y a un micro au besoin. Et moi, je n'ai pas envie de mettre de micro à mon spectacle. J'ai envie que tu entendes moins si tu étais loin puis tu arriveras plus tôt la prochaine fois puis ça sera quelque chose d'inégal, le compte. Alors, ça devient une espèce de nécessité d'avoir... Si tu veux passer à mon show, il va falloir que tu parles fort. Je suis désolé. Sinon, le monde t'entendra juste pas. Donc, la porte est ouverte, mais pas si grande que ça, finalement, parce que la contrainte est assez grande. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, j'avais sur mon site web, lapetitegreve.com, j'ai un espèce de petit blog où est-ce que j'avais partagé des articles. Je crois que c'était une douzaine d'articles où je parlais de rencontres que j'avais faites. Des rencontres de d'autres artistes, des rencontres de d'autres individus et de qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique. Donc, c'est l'onglet « Rencontres ». Vous allez pouvoir voir ça. Je parle entre autres de Samuel, oui, mais je parle de d'autres personnes qui sont étrangers au conte, mais qui ont changé quelque chose d'important dans ma manière de pratiquer le conte. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, lapetitegreve.com, l'onglet « Rencontres » dans le blog. Donc, voilà un peu pour mon épisode sur les autres conteurs-conteuses, mes collègues. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.